VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, Nathalie Barge avec vous au sommaire de cette édition du 26 octobre 2017. Présidentielle au Kenya, 3 morts dans des violences, scrutin reporté à samedi dans 4 comtés de l'Ouest. Démission du ministre de la Culture burkinabé, Taïrou Barry, exprimant sa profonde déception dans une déclaration virulente. Centrafrique, le président Touadéra et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appellent les combattants à déposer les armes. La représentante américaine à l'ONU, Nikki Haley, à Kinshasa, après sa visite à Goma. Espagne, Puigdemont laisse le Parlement décider de la réponse à la mise sous tutelle de la Catalogne. L'économie et les sports, ce sera juste après le journal. Les Kenyans ont voté une nouvelle fois pour élire leur président. Près de 20 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Il y a eu moins de mobilisation que lors du 8 août. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Sauf surprise majeure, le président sortant Uhuru Kenyatta devrait être réélu face à 6 autres candidats. Toutefois, ce n'était pas l'engouement contrairement aux longues files d'attente le 8 août. Raila Odinga, le principal opposant, a appelé au boycott. Dans les fiefs de l'opposition, des sites de vote sont restés fermés, le matériel électoral n'a pas pu être acheminé et les agents électoraux ne sont pas venus. À Kisumu, les manifestants ont érigé des barricades et brûlé des pneus avant d'être dispersés par la police. Un manifestant a été tué par balle et d'autres blessés. Des échauffourées ont eu lieu dans des bidonvilles de Nairobi et dans d'autres villes de l'Ouest. Le président de la commission électorale, Wafula Chebukati, a annoncé le report du scrutin au samedi 28 dans 4 bastions de l'opposition. Le gouverneur de Kisumu, Enyang Unyongo, une figure de l'opposition, a tout de suite rejeté ce vote annoncé pour samedi et a déclaré un deuil d'une semaine.
Le ministre de la Culture burkinabé, Taïrou Barry, a démissionné. L'information a été donnée à ses collaborateurs au cours d'une réunion ce jeudi. Dans une déclaration virulente, l'ex-candidat malheureux à la présidentielle de 2015 exprime sa déception profonde sur plusieurs points, dont notamment le chômage des jeunes, la situation économique et la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Un groupe armé terroriste affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique a été mis hors de combat et 15 djihadistes tués par l'armée française dans la nuit de lundi à mardi dans le nord du Mali. Au cours d'un point de presse, le colonel Patrick Steiger, porte-parole de l'état-major des armées, a déclaré que la découverte d'une katiba terroriste dans la région d'Abébara a entraîné le déclenchement d'une action combinée entre les forces spéciales françaises et des soldats de l'opération Barkhane. Fin de la visite de la représentante américaine à l'ONU dans l'est de la RDC. Nikki Haley a été à Goma et se rend à Kinshasa. Le point avec Charlie Kazereka, notre correspondant à Goma.
C'est en fin de la matinée que Nikki Haley est atterrie à Goma en provenance de Kinshasa. L'ambassadrice des États-Unis à l'ONU est allée directement vers Kichanga à plus de 80 km à l'ouest de Goma dans les territoires de Masisi, zone prioritaire du programme de stabilisation régorgeant plusieurs camps de déplacés internes suite au conflit interethnique entre les groupes armés. Des retours à Goma, la coalition des partis de l'opposition ainsi que les jeunes du mouvement citoyen Lucha ont voulu donner à mes propres leurs mémoires à la diplomate américaine, mais ils en ont été empêchés et brutalisés par la police de la mission onisienne en RDC. Nikki Haley n'a fait aucune déclaration à la presse ici au Nord Kivu avant de s'envoler pour Kinshasa, la capitale, où elle doit rencontrer le président Joseph Kabila ce vendredi. Pour rappel, Nikki Haley mène une visite de 3 jours en RDC, accompagnée d'une délégation d'une trentaine de personnes. Avant de venir à Kinshasa, elle s'est rendue en Éthiopie et au Soudan du Sud. Charlie Kassereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Antonio Guterres en Centrafrique, après avoir pris part à une réunion sur le programme de désarmement, le secrétaire général de l'ONU a rencontré des membres de la société civile et des partis politiques. Freeman Sipila nous en dit plus.
À la présidence de la République, Antonio Guterres était aux côtés de Faustin Archange-Touadéra pour parler du processus de désarmement et de réintégration en cours. Le secrétaire général de l'ONU a lancé trois appels.
Le premier aux groupes armés, pour qu'ils désarment, pour qu'ils acceptent de participer à la vie politique du pays. Un deuxième appel aux leaders politiques, communautaires et religieux pour une véritable réconciliation nationale. Et finalement, un appui à la communauté internationale. On ne peut pas laisser les Centrafricains à l'abandon. Il faut que tout le monde se mobilise pour aider ce pays à bâtir un futur que les Centrafricains méritent et qu'il faut absolument garantir.
Après le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument des martyrs en mémoire des victimes de la crise, M. Guterres a rencontré les représentants de l'Union africaine, de la société civile et des partis politiques. Anissé Georges Dologuilé, chef de file de l'opposition.
À peu près tous nous disons les mêmes choses, c'est-à-dire des forces onusiennes plus offensives, des forces non pas de maintien de la paix mais d'imposition de la paix, et que les groupes armés soient traqués, que ceux qui sont des grands criminels soient jugés et qu'il n'y ait pas d'impunité.
Freeman Sipila Bondi, VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Incertitude sur les véritables intentions du président séparatiste catalan, Carles Puigdemont n'annonce pas d'élection anticipée faute de garanties suffisantes du gouvernement espagnol. Abdourahman Dia.
Le chef de l'exécutif catalan avait annoncé l'idée d'une élection anticipée, mais n'a finalement pas franchi le pas. Dans un discours très attendu, Carles Puigdemont a indiqué que c'est le Parlement catalan qui doit décider de la réponse à apporter à la mise sous tutelle de la région. Entre le marteau de Madrid et l'enclume des radicaux indépendantistes, il a donc choisi de jouer les prolongations. En milieu de journée, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Barcelone, exigeant de M. Puigdemont qu'il rompe avec l'Espagne. Certains l'accusent même déjà d'être un traître. Les plus radicaux le pressaient de proclamer l'indépendance immédiate et de créer une république catalane. Le Sénat espagnol entame ce jeudi les discussions pour l'application de l'article 155 de la Constitution qui retire l'autonomie à la Catalogne. Depuis l'organisation du référendum, plusieurs grandes compagnies ont délocalisé ou menacé de quitter la Catalogne.
Les forces armées irakiennes ont repris ce jeudi des bases militaires et des villages de groupe État islamique dans son dernier bastion près de la Syrie lors d'une offensive. De l'autre côté de la frontière, les troupes du régime syrien et leurs supplétifs font mouvement pour prendre en étau les djihadistes. Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a reçu ce jeudi à Téhéran le soutien des autorités iraniennes aux actions entreprises par Bagdad pour défendre l'unité et l'intégrité territoriale de son pays. Monsieur Abadi a rencontré le guide suprême de la République islamique Ali Khamenei et le président iranien Hassan Rouhani après le lancement d'une opération de l'armée irakienne contre le dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Et alors que les troupes de Bagdad combattent pour reprendre aux Kurdes des zones disputées dans le nord du pays. Un tribunal turc a ordonné ce jeudi le maintien en détention du président d'Amnesty International en Turquie, accusé d'appartenir au mouvement du prédicateur Fethullah Gulen, qu'Ankara désigne comme le cerveau du putsch manqué en dernier, indiqué l'ONG. Taner Kilis comparaissait devant un tribunal d'Izmir au lendemain d'un premier procès à Istanbul, dans le cadre duquel il est accusé avec 10 autres militants des droits de l'homme d'activité terroriste. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce jeudi l'Italie pour les mauvais traitements imposés en détention à 59 manifestants altermondialistes en marge du sommet du G8 à Gênes en 2001, estimant que ceux-ci ont subi des actes de torture, coups et blessures, insultes, vaporisation de gaz irritants et destruction d'effets personnels. Ces manifestants avaient saisi la Cour européenne. Ces derniers, arrêtés et placés en détention jusqu'à deux jours après des accrochages avec les forces de l'ordre, ils avaient été arrêtés donc entre le 20 et 22 juillet 2001. Un réseau de passeurs de migrants vers l'Angleterre a été démantelé, conduisant à l'arrestation de 26 personnes lors de raids dans plusieurs pays d'Europe, a annoncé l'Office européen des polices Europol. Le réseau est soupçonné d'avoir transporté des migrants dans des véhicules adaptés spécialement, traversant plusieurs pays membres de l'Union, avec la Grande-Bretagne comme destination finale, a précisé Europol. Plus de 73 000 personnes ont fui Porto Rico pour se réfugier en Floride après le passage de l'ouragan Maria le 20 septembre. Selon le gouvernement de Floride, le passage de l'ouragan sur cette île des Caraïbes a fait au moins 48 morts et dévasté les habitations et infrastructures. La majeure partie de ce territoire américain est toujours sans électricité ni eau potable et l'aide peine toujours à arriver dans les zones reculées. Et le pape François s'est entretenu par satellite avec les 6 astronautes à bord de la Station spatiale internationale. L'astronomie vous fait contempler des horizons infinis de l'univers et suscite chez nous des interrogations. D'où venons-nous? Où allons-nous? A-t-il demandé à l'astronaute italien Paolo Nespoli, qui a souligné la complexité de la question. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Dili Dico.
Le Togo a alloué près de 298 millions de dollars de crédits budgétaires aux infrastructures en 2016, selon le rapport publié par le consortium pour les infrastructures en Afrique. Cette somme est largement au-dessus des ressources engagées dans le même secteur dans les autres pays de l'UMOA, à l'exception du Sénégal qui consacre plus de 575 millions de dollars aux infrastructures. L'agence Ecofin révèle qu'en Afrique, le Togo est parmi les pays qui ont le plus investi dans le domaine des infrastructures en pourcentage du PIB, avec la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et le Kenya. La Guinée équatoriale a entériné la suppression des visas pour les ressortissants de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC, en application de l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation en Afrique centrale. Les ressortissants du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale et du Tchad peuvent désormais entrer sans visa en Guinée équatoriale avec un passeport biométrique et pour un séjour ne dépassant pas 3 mois. Au Gabon, le Fonds monétaire international va débloquer 400 milliards de francs CFA pour soutenir la mise en œuvre de son plan de relance économique.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
On est à la veille du départ pour le 30e tour du Burkina Faso.
Et oui, l'épreuve cycliste reine du continent débute demain. Les premiers coups de pédale pour la première étape de 139 km entre Koulbila et Tengodogo pour cette 30e édition qui s'annonce une participation presque record avec 17 équipes et un budget de 380 millions de francs CFA selon l'organisation. Ce sera 10 jours de fête pour les amoureux de la petite reine qui vont se régaler jusqu'au 5 novembre sur les routes du Burkina Faso.
Foot aux États-Unis, on connaît l'affiche des demi-finales de conférence.
Et oui, les Red Bulls de New York se sont qualifiés avec panache pour les demi-finales de conférence des playoffs du championnat nord-américain de football en allant s'imposer 4-0 à Chicago en match de barrage, tout comme Vancouver, vainqueur de San José, 5-0. Les New Yorkais affronteront au tour suivant le favori Toronto. Vancouver, troisième de la conférence Ouest, affrontera Seattle. Deux barrages restent à jouer, Atlanta-Columbus et Houston. Kansas City.
Le championnat d'Espagne et la vidéo.
La Liga devrait appliquer l'assistance vidéo à l'arbitrage à partir de la saison prochaine, annonce du président de la fédération espagnole Juan Luis Larrea, ce qui emboîte ainsi le pas à la Serie A italienne et à la Bundesliga allemande. La FIFA, qui observe de près ces expérimentations, doit décider d'introduire ou non l'assistance vidéo lors du Mondial 2018.
En tennis, Venus Williams en demi-finale du Master.
À 37 ans, l'Américaine s'est hissée en demi-finale du Masters pour la 5e fois de sa carrière en éliminant à Singapour la numéro 2 mondiale, l'Espagnole Garbine Muguruza, le score 7-5, 6-4. Il n'y a plus qu'un seul billet disponible dans le groupe blanc puisque la Tchèque Karolina Plíšková était déjà qualifiée malgré sa défaite un peu plus tôt devant la Lettone Yelena Ostapenko en 2-7, 6-3, 6-1.
On termine par la NBA, championnat de basket nord-américain.
Victoire de Charlotte sur Denver, 110 à 93. Défaite de Minnesota face à Détroit, 101 à 122. Houston qui passe sur le fil Philadelphie, 105 à 104. Défaite surprise des Cavaliers de Cleveland et LeBron James face à Brooklyn, 107 à 112. San Antonio qui bat Miami, 117 à 100. Indiana battu par Oklahoma 96-114 et puis Memphis qui est battu également par Dallas 94-103. Enfin, la victoire de Phoenix 97-88 devant Utah.
Merci beaucoup Nicolas pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers d'actualité. On revient sur la crise politique qui secoue le Togo depuis 2 mois et qui a fait au moins 16 morts. Une situation qui a suscité des appels au dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Washington, Paris et la CEDEAO demandent en effet l'ouverture de discussions. Comment Lomé accueille ces appels? Yacouba Ouédraogo a joint Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative.
Le président de la République togolaise et le gouvernement ont été les premiers à exhorter la classe politique togolaise à faire preuve d'ouverture pour privilégier un débat et un dialogue républicain. Et donc nous nous réjouissons que des exhortations et des encouragements viennent également des pays frères et voisins. Et nous espérons que cela va contribuer à faire entendre raison à ceux qui, jusqu'à présent, étaient beaucoup plus dans une démarche insurrectionnelle.
Le gouvernement a adopté un projet de modification constitutionnelle, un projet qu'il veut soumettre au référendum. Quel est le contenu de ce projet-là?
Le premier point, c'est l'article 52 de la Constitution qui viserait à limiter les mandats électifs, notamment les mandats des députés et des sénateurs, ainsi que l'article 59 qui concerne la limitation du nombre de mandats présidentiels et l'article 60, le troisième point qui concerne le mode de scrutin à l'élection présidentielle, donc faire en sorte que le président de la République soit élu au scrutin majoritaire à 2 tours.
L'opposition rejette bien sûr ce projet parce qu'elle estime que ce projet consacre la non-rétroactivité et donc cela permettrait au président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005 de se représenter encore.
Pour éviter de s'engager dans des débats sémantiques, philosophiques ou dans du juridique. Une loi ne produit des effets que par rapport à des situations et à des faits qui surviennent après qu'elle ait été adoptée.
Le référendum, il reste d'actualité.
La question n'est pas de savoir si le référendum reste d'actualité ou pas. Jusqu'à preuve du contraire, les préparatifs sont en cours et nous espérons que les esprits vont s'apaiser et que nous allons travailler ensemble pour parvenir à une révision de la Constitution dans le sens de la consolidation et du renforcement de la démocratie.
L'opposition entend manifester la semaine prochaine, malgré l'interdiction de manifester les jours ouvrables. Que lui répondez-vous?
Il serait souhaitable que les esprits s'apaisent et que nous puissions remettre bas la terre, que nous puissions examiner les dégâts qui ont été causés en termes notamment de pertes en vie humaine, de destruction, et que nous puissions œuvrer ensemble pour préserver la liberté de manifestation sans qu'il y ait des débordements et sans qu'il y ait des violences gratuites.
La plupart des appels au dialogue estiment qu'il ne faut pas poser de préalable avant d'y aller. Est-ce que vous fonctionnez dans cette logique-là?
Bien entendu. En revanche, il est important aussi de souligner qu'un dialogue politique, un débat républicain ne peut être fécond que si au préalable, nous créons les conditions de sérénité et de calme. Et si les esprits s'apaisent.
Gilbert Bawara, ministre togolais de la fonction publique. Nous aurons la réaction de l'opposition dans nos éditions du matin.
Et Kabadou, avec vous, dans Washington Forum, ce jeudi, le point sur la situation en République centrafricaine. Depuis 2013, plusieurs groupes armés sèment la désolation dans le pays, malgré la présence de plus de 10 000 casques bleus. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, effectue une visite en RCA. Faut-il envoyer plus de casques bleus? Comment sortir de cette crise? Comment rétablir la paix dans le pays? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h en temps universel.
Au Kenya, la nouvelle élection présidentielle a eu lieu malgré le boycott de l'opposition. Le scrutin a été émaillé de violences qui ont contraint la commission électorale à reporter le vote dans 4 comtés. Pour faire le point, Jacques Aristide a joint Caroline Thompson, la correspondante de La Voix de l'Amérique à Nairobi.
En fait, ces comtés sont dans la région ouest du pays et c'est là où la plupart des personnes sont des Luo, des tribus qui soutiennent l'opposition, M. Odinga. Et c'est eux qui font la plupart des manifestations pour bloquer la livraison des documents de l'élection. Et ce qu'on a appris, c'est que, en fait, la commission électorale dit que le problème, c'est d'essayer d'organiser les élections. Il y a des problèmes de sécurité.
Que pouvez-vous nous dire à propos des violences qui ont éclaté ailleurs dans le pays?
Même si le président a demandé au peuple de voter en paix, il y a beaucoup de personnes qui pensent que cette élection est une farce. Il y a beaucoup de manifestants qui disent qu'ils ne s'arrêteront pas avant qu'il y ait une élection qui est libre. Alors déjà, il y a eu beaucoup de manifestations qui sont passées dans les régions qui soutiennent l'opposition. On a entendu qu'il y a déjà au moins un mort et plusieurs personnes qui ont été blessées entre les manifestants et les policiers.
Quelle est la situation maintenant après la fermeture des bureaux de vote?
Oui, alors il y avait des personnes qui pensaient peut-être que la situation améliorait, mais en fait, pour le moment, il y a encore beaucoup de manifestations et des problèmes entre les manifestants et les policiers. À Kibera, par exemple, qui est le bidonville le plus grand du Kenya, les manifestants continuent à lancer des roches, des bouteilles en verre envers les policiers. Et les policiers envoient, par exemple, des gaz lacrymogènes pour essayer de les envoyer, de les faire disperser.
Raila Odinga, qui a retiré sa candidature, a appelé ses partisans à ne pas aller voter, alors que le président Kenyatta, lui, a demandé aux électeurs de participer massivement au scrutin. Que pouvez-vous nous dire au sujet de la participation?
On a visité plusieurs endroits de vote, mais il y avait très peu de personnes, même aux stations de vote dans les régions qui soutiennent le président. Alors, on a vu, par exemple, l'élection en août, il y avait des personnes qui ont fait la queue pendant des heures. Ils se sont levés très tôt le matin pour pouvoir voter. Cette fois, il n'y avait même pas de queue. Il y avait des gens qui entraient et sortaient dans quelques minutes. Mais on a entendu, il y a des rumeurs que les gens ont peur que s'ils vont voter, ils vont être notés avec quelque chose sur la main. Ils ont peur que ça va dire aux manifestants qu'eux, ils soutiennent le président et ils pourraient être des victimes des attaques.
Pour des observateurs, le président qui sortira des urnes n'aura aucune légitimité et le pays restera très divisé. Le Kenya pourrait-il se diriger vers un troisième scrutin?
Pour le moment, on ne sait vraiment pas comment la situation peut se régler. C'est possible que l'élection sera encore contestée au Cour suprême, mais pour le moment, il semble que M. Odinga préfère des autres manières de contester ces élections. Alors, par exemple, par des boycotts. Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent déjà qu'ils ne vont pas accepter ces résultats et qu'ils sont prêts à lutter pour une élection qu'ils considèrent acceptable.
Caroline Thompson est la correspondante de La Voix de l'Amérique à Nairobi.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Sénégal, le décès d'une jeune fille de 12 ans à l'hôpital de Pikine, en banlieue de Dakar, pour négligence médicale présumée, agite l'opinion publique et remet au goût du jour la situation des patients dans les structures sanitaires du service public. Après la panne de la machine de radiothérapie qui oblige les malades du cancer à se faire soigner au Maroc, la mort de Aïcha Diallo relance la polémique sur la qualité du système de santé publique au Sénégal. Le point avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Pour ce cas de figure-là, une enquête est en cours. Nous ne préjugeons de rien a priori. Pour déterminer effectivement les responsabilités de Diallo et à partir des résultats de l'enquête, nous allons effectivement prendre les dispositions qu'il faut prendre et quelles que soient ces dispositions. Dans un système où il y a d'excellents professionnels, mais dans ce système-là aussi, il faut tous les jours se battre pour sortir ceux qui n'ont pas la conscience de servir la santé du pays.
Santé et de l'action sociale affirme que les manquements sont nombreux dans les hôpitaux.
Des fois, les collègues passent plus de 24 heures dans les structures, alors que 12 heures, c'est la limite normale. Un déficit de personnel, un déficit de spécialistes. Les structures, disons, qui sont chargées d'accueillir ces urgences sont presque toutes dépassées parce que la capacité d'urgence était réduite.
les urgences, on les compte, ils sont peu nombreux et souvent aussi les intrants posent problème parce que tout aussi, disons, est tributaire de ces budgets, disons, de fonctionnement.
De leur côté, les usagers dénoncent un manque criant d'organisation dans les structures sanitaires. Mohamed Cissé, vice-président de l'Association des consommateurs du Sénégal.
Un vigile même, vu la proximité qu'il a avec le personnel médical, arrive même à occuper un poste où il ne devait pas l'être. On a constaté des vigiles qui remplissent des fiches. Cette personne-là ne peut pas remplir le rôle de l'être. Cette personne-là n'est pas formée pour orienter pleinement, avec exactitude, le patient dans tel ou tel département ou la pathologie. Parcourez les hôpitaux, vous allez voir des vigiles qui sont dans les bureaux ou à l'entrée ou à l'accueil d'orientation, alors qu'ils auraient dû être à la porte.
Mohamed Cissé évoque également le problème de la formation et de l'encadrement du personnel sanitaire.
Vous savez, il y a beaucoup d'écoles privées qui puent. Et ces stagiaires-là, si vous tombez dessus, c'est des gens qui doivent être encadrés. Un stagiaire ne doit pas pleinement remplir une fiche. À n'importe quel poste qu'un stagiaire doit occuper, il doit être encadré par un personnel formé expérimenté.
Malo Diatiam, secrétaire général du SUDSAS, estime que la qualité de la formation doit être une priorité pour les autorités afin d'éradiquer les manquements qui gangrènent le secteur de la santé.
Si on doit interroger la formation, évidemment, elle a été libéralisée. Il nous faut d'abord une réelle inspection des écoles pour voir si ces écoles-là, dans le cadre de la formation, sont en train de se conformer à leur cahier de charges. En tout cas, nous invitons le gouvernement à faire de l'inspection des écoles, surtout paramédicales, à faire sérieuse. C'est de ce point de vue qu'on peut régler ces questions-là, qui sont liées à ces problèmes de maladresse, de traitement, de mauvais comportement.
Malgré plusieurs programmes de prise en charge des malades, notamment les enfants et les personnes âgées, le secteur de la santé publique demeure dans des problèmes d'ordre structurel qui affectent son bon fonctionnement. Le renforcement des établissements sanitaires en ressources humaines et matériels de qualité semble ainsi être vital. Seydina Abagay à Dakar pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Le film Saba a été projeté hier à Washington. C'est un documentaire qui traite de la question de collaboration entre les forces de sécurité et des membres de la communauté de Saba, une commune dans la banlieue de Ouagadougou au Burkina Faso. Compte rendu avec Bagassikoura.
Avec les Kogloiro, au tout début on a vu des Kogloiro qui ont tué des gens à Saba ici, mais frappé jusqu'à tuer.
La salle était bondée lors de la projection de ce film. Saba, une série documentaire qui retrace la vie des résidents de la bourgade du Sahel du même nom, en proie à des problèmes de sécurité.
Nous avons vu qu'en fait, il existe des groupes d'autodéfense ainsi que la population et l'administration qui ont du mal à collaborer.
Sandrine Nama est la représentante au Burkina de l'Institut américain pour la paix.
C'est dans ce sens que le DHD a travaillé à les amener ensemble autour d'une table.
La commune de Saba, composée de 26 villages, a plus de 80 000 habitants, mais la gendarmerie n'a que 10 agents et la police 20. Ils ont peu de moyens et avaient de sérieux problèmes de crédibilité aux yeux d'une bonne partie de la population. Philippe Leroux-Martin est le directeur en charge des questions de sécurité et des droits de l'homme à l'USIP.
Le projet qu'on pilote vise à renforcer le lien de confiance entre les citoyens ou les résidents d'une communauté et les services de sécurité.
L'USIP a donc mis en place un projet pour encourager le dialogue entre la gendarmerie, la police, les habitants et les membres des groupes d'autodéfense des Kogloiro à Saba. Idrissa Barry est le coordonnateur du projet.
Peut-être que ça ne sort pas dans les films, mais la première activité, la première réunion que nous voulions organiser en fait entre ces différents acteurs, les deux parties ont décidé de s'asseoir ensemble.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Joselle Morissin, à la console Audouilleuse Regis, à la présentation Nathalie Barge. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.